Eh bien, bonjour à tous. Ça va bien ce matin? Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Alexandre Farley. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous apporter un message de la parole de Dieu. Ce ne sera pas long. Avant qu'on commence directement dans le message, j'aimerais ça faire quelque chose de spécial ce matin, qu'on n'a jamais fait, à ce que je sache. Un peu de ménage, hein, c'est bon. Oups, désolé pour les feuilles. Donc, j'ai une question pour vous ce matin. Puis ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais ça avoir votre feedback live, c'est-à-dire vos réponses directes, en direct ce matin. Vous pourriez toutes, un après l'autre, me donner votre réponse, mais ça fait cacophonique, on n'entendrait pas vraiment les réponses, ça ne serait pas utile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sondage. J'aimerais ça que vous puissiez répondre avec votre téléphone cellulaire, pour ceux qui en ont un. J'aimerais ça, vous n'allez pas entendre beaucoup de prédicateurs vous dire ça là, du haut de la chair, mais j'aimerais ça que vous preniez votre cellulaire et vous alliez sur Internet ce matin. Là, je sais là, qu'on a des problèmes des fois avec le Wi-Fi. Si le Wi-Fi ne marche pas, vous avez des datas. Je vous lance un défi. J'aimerais ça que vous répondiez à la question qui est affichée à l'écran. Je ne sais pas si tout le monde la voit comme il faut, mais je vais la lire. Que vous soyez ici dans la salle ou que vous nous écoutiez par Internet, vous pouvez y répondre. Et à mesure que les gens répondent à la question, on devrait voir les résultats apparaître à l'écran. La question est la suivante. Aimes-tu mieux une fin qui finit bien, une histoire qui finit bien ou une histoire qui finit mal? Tu sais, quand tu regardes un film, là, ou tu lis un livre, aimes-tu mieux les fins heureuses ou les fins tragiques? Parce que pendant longtemps, c'était beaucoup des fins heureuses. Mais depuis plusieurs années, il commence à avoir de plus en plus de films et de livres, d'histoires avec des fins tragiques. C'est devenu à la mode et il y a plusieurs raisons. On peut étudier les raisons pour ça. Mais un autre exemple, est-ce que tu aimes mieux la fin de Star Wars, l'Empire contre-attaque, ou la fin de Star Wars, le retour du Jedi? Peut-être que tout le monde ne connaît pas les films de Star Wars. Moi, je suis comme un fan fini de Star Wars, mais juste pour vous mettre un peu dans le contexte, l'Empire contre-attaque, c'est comme super déprimant. T'sais. Luke Skywalker, il se fait couper la main. Je ne veux pas donner des spoilers à personne, mais c'est quand même des vieux films. Là. Si vous n'avez pas vu ça, là, c'est probablement parce que vous ne voulez pas les voir, mais... Luke, tu sais, il apprend que Darth Vader, c'est son père, il se fait couper la main, il est rendu tout seul, il a comme plus d'espoir. Han Solo, qui était son partner, il s'est fait congeler. En tout cas, c'est vraiment comme une fin où tu te dis, ça peut pas finir là, tu sais. Et évidemment, George Lucas a dit, mais non, ça finira pas là. Ils ont fait le retour du Jedi. Puis dans le retour du Jedi, comme tout est renversé, la fin du retour du Jedi, c'est comme la fin tant espérée. Tu sais, que tu aurais tellement voulu que ça l'arrive dans l'Empire contre-attaque, mais c'est dans le retour du Jedi que tu la vois, tu sais, cette fin-là. Puis finalement, tu sais, si on n'avait pas eu l'Empire contre-attaque, on n'aurait pas voulu autant la fin du retour du Jedi, tu sais. Fait que prenez votre téléphone, allez voir dans Slido. Je ne sais pas si vous voyez slido.com ou slido.com. Vous tapez le mot-code « histoire » puis ça vous donne un choix de trois réponses différentes qui est comme celle-là. Puis comme on peut voir, jusqu'à date, à peu près trois quarts des gens qui ont répondu, on ne sait pas combien de gens ont répondu, mais aiment plutôt des fins heureuses que des fins tragiques. Puis on va revenir à ces réponses-là tantôt. Je vais vous laisser voter encore si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez prendre votre temps puis aller le faire. Là. On peut passer maintenant au PowerPoint. Merci, Jean-Louis. Donc, ce matin, on continue. Et en fait, on ne fait pas juste continuer, mais on termine une série d'enseignements et de discours sur l'Évangile de Marc. Une série qu'on a appelée « Opération sauvetage ». Opération sauvetage. Puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au tout début de l'histoire, ça fait plusieurs semaines de ça, on a lu au début de l'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 1, la chose suivante. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme si Marc disait, c'est de ça que je veux vous parler dans mon histoire. La bonne nouvelle que Jésus... C'est non seulement le Christ, mais le Fils de Dieu. Et ça, ça change tout. Tu vois, l'Évangile signifie « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle est que Jésus est venu opérer un sauvetage dans un monde qui était perdu et dans un monde qui était en train de couler. Tu vois, Jésus est aussi le Christ, c'est-à-dire le Messie promis de l'Ancien Testament. C'est un mot qui signifie « oint » ou « celui que Dieu a choisi pour libérer son peuple de l'esclavage et de la domination ». Puis tu vois, Jésus est aussi le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste un libérateur humain, Jésus. Ce n'est pas juste un ange envoyé pour nous aider, comme Dieu fait, comme la Bible nous dit que Dieu fait avec plusieurs anges. Ils sont envoyés par Dieu pour être à notre service et nous aider. Non, Jésus, ce n'est pas juste un simple homme, ce n'est pas juste un ange. C'est lui-même le Fils de Dieu. Donc, c'est comme si Marc disait, il y a une chose qu'il faut comprendre au sujet de Jésus. C'est que c'est le Fils de Dieu. Les gens autour de nous sont tellement confus par rapport à l'identité de Jésus. Les gens dans notre société, puis un peu partout dans le monde, pensent toutes sortes de choses à propos de Jésus. Et c'est confus. Les gens ne comprennent pas vraiment qui Jésus est et ce qu'il est venu faire. Et c'est en lisant des livres et des histoires comme l'Évangile de Marc qu'on peut être exposé davantage à la personne de Jésus et voir quelle différence il est venu faire dans ce monde et dans ma vie et quelle différence il peut faire aussi dans ta vie. Même dans l'histoire que Marc raconte dans son Évangile, on voit les personnages qui rencontrent Jésus, mais aucun d'eux reconnaît qui Jésus est vraiment. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour que quelqu'un comprenne que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Puis toi, ce matin, est-ce que tu reconnais que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Et sinon, qu'est-ce que ça va prendre pour que tu reconnaisses que Jésus est le Fils de Dieu? J'espère que le discours de ce matin va t'aider à répondre à cette question pour toi-même. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse prendre juste un temps dans la prière, si vous voulez bien. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous donnes ce matin de pouvoir se pencher, examiner de plus près ta parole. Merci parce que ta parole, Seigneur, est puissante, ta parole est vivante, elle peut avoir vraiment un impact dans nos vies. Et ce matin, on prie que tu puisses nous aider à mettre toute distraction de côté pour qu'on puisse être à ton écoute, Jésus. Pas à l'écoute d'Alex Farley ou quoi que ce soit, mais à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Et qu'on puisse avoir des cœurs prêts à recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner. Amen. Donc, pour nous aider à percer le mystère de la personne de Jésus, Marc écrit son histoire d'une manière bien précise. Puis c'est intéressant de voir qu'il va séparer un peu l'Évangile en deux grandes sections. Il va la découper en deux grandes parties. La première partie du chapitre 1 au verset 8 à 26 et la deuxième partie de 8 à 27 à peu près au chapitre 16. Puis ça pourrait être débattu là, exactement, est-ce que c'est là que la division se fait, mais quand on étudie l'ensemble de l'Évangile, on voit quand même ces deux grandes sections-là qui ont une emphase différente. Puis c'est comme si Marc, c'est pas juste par hasard, là, c'est intentionnel qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Et on voit donc la première partie qui présente surtout l'identité de Jésus-Christ. Et la deuxième partie qui va mettre le focus ou qui va présenter davantage la mission de Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici sur la terre? Il faut penser aussi que les personnes qui ont rencontré Jésus, ce n'était pas écrit sur son front, « Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis celui qui va tout accomplir. » Tu sais, Jésus se présente, c'est le fils d'un charpentier, il vient de Nazareth. Pour les gens qui rencontraient Jésus, ils devaient se faire une idée de qui Jésus était. Et c'était avec les choses que Jésus disait et les choses que Jésus faisait, son attitude avec les gens, son enseignement, les miracles qu'il faisait, les différentes choses, que les gens pouvaient se faire une idée de qui Jésus est et qu'est-ce qu'il est venu faire, et si c'est important ou non pour moi dans ma vie. Et c'est un peu la même chose pour nous, ici en 2019, lorsqu'on lit l'Évangile de Marc. Marc nous invite à regarder qu'est-ce que Jésus fait, regarder qu'est-ce que Jésus dit, comment il agit avec les gens alors qu'on lit l'histoire, alors qu'il nous emmène dans l'histoire de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle à son sujet. Puis il nous invite de se faire une opinion nous-mêmes de la personne de Jésus-Christ en étant exposé à ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc, dans la première partie de l'histoire, Jésus se promène un peu partout dans la Palestine. Il va aller autour du lac de la Galilée, il va faire plusieurs traversées du lac. Il va visiter toutes sortes de villes comme Chorasin, comme Capernaum, ainsi de suite. Et il va même aller dans des villes et des territoires non juifs. Il va aller dans la ville de Tyr, dans la ville de Sidon, un peu plus au nord. Il va aller dans ces villes-là, il va rencontrer des gens non-juifs avec qui il va avoir toutes sortes d'interactions. Et dans cette section-là de l'histoire, Marc rapporte que malgré toutes les choses que Jésus dit et fait, qui montrent clairement qu'il est d'origine divine, personne ne comprend vraiment qu'il est le Fils de Dieu. À part les démons qui savent qui Jésus est. Puis c'est intéressant parce que c'est comme les seules personnes dans la première moitié de l'Évangile ou presque dans tout l'Évangile qui l'ont, là, tu sais, qui le savent c'est quoi l'identité de Jésus. Eux autres, ils l'ont, là. Puis on va lire à Marc chapitre 3, verset 11, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se promenaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » C'est dans les premiers qui disent la vérité à propos de vraiment, c'est quoi l'identité de Jésus au chapitre 5, versets 2 et 7. On lit, « Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. » Il vient d'arriver là, l'autre bord du lac de la Galilée. Il sortait des tombeaux, cet homme, et il était animé par un esprit impur. Il vit Jésus, au verset 6, de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Vraiment intéressant ici de voir que malgré la difficulté et même le refus de plusieurs de reconnaître qui Jésus est, c'est les démons, ceux qui sont complètement en opposition avec Jésus, qui vraiment parle avec vérité à son sujet. Sa famille, ses disciples, les chefs religieux, la foule, personne ne comprend qu'il est le Fils de Dieu. Mais à partir du chapitre 8, on voit un changement dans l'itinéraire et l'objectif de Jésus. Et je pense que ça vaut la peine de prendre un temps pour saisir le changement qui se produit. À partir du chapitre 8 jusqu'au verset 16. Vous avez, j'ai mis un petit diagramme là, pour nous aider dans l'aperçu et le survol très vite fait qu'on va faire des chapitres 8 au verset 16, au chapitre 16, pardon, pour comprendre davantage comment est-ce que l'histoire change un petit peu à partir du chapitre 8. On voit un changement dans son itinéraire et dans son objectif. C'est comme si l'opération sauvetage commence à devenir plus précise et expéditive. On s'en va vers quelque chose, là, c'est clair. En effet, à partir d'une ville qui s'appelle Césarée de Philippe, on lit ça au chapitre 8, qui est au nord de la Palestine, cette ville-là, c'est l'endroit où, au chapitre 9, Pierre va dire à Jésus, « C'est toi qui es le Christ. » Quand Jésus demande, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre va répondre, « Tu es le Christ. Tu es le Messie promis. » Donc, à partir de cette ville-là, de Césarée de Philippe, on voit Jésus se diriger intentionnellement vers Jérusalem, qui est au sud de la Palestine. Il y a tout un voyage qui l'amène là. Il va passer par Jéricho, entre autres, pour se rendre à Jérusalem, pour accomplir sa mission. Puis cela devient, dans un sens, le programme du reste de l'histoire. C'est donc en chemin vers Jérusalem que Jésus va briller de toute la gloire de Dieu sur la montagne, avec Pierre, Jean et Jacques, au chapitre 9. C'est là qu'une voix va déclarer pour la deuxième fois dans l'histoire, « Voici mon Fils bien-aimé. Voici mon Fils bien-aimé. » C'est cette déclaration de Dieu le Père qui avait été faite lors du baptême de Jésus dans la première partie de l'histoire est maintenant refaite une deuxième fois sur la montagne de Transfiguration avec les disciples. Mais malgré ça, les disciples ne comprennent pas vraiment son identité. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils le voient? C'est en chemin que Jésus enseignera à ses disciples la vraie grandeur au chapitre 10, en leur disant que malgré que lui-même, Jésus, est le plus grand de tous, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est en chemin qu'à trois reprises, vers Jérusalem, Jésus va enseigner à ses disciples qu'il doit souffrir, qu'il doit être rejeté par les chefs religieux, qu'il devra mourir et trois jours après, il va ressusciter. On voit ça au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10, et les disciples ne comprennent rien. Ça le dit dans le texte, quand on voit ces passages-là, ils ne comprennent juste pas qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il voit qu'il est le Fils de Dieu, tu sais? Jésus arrive donc aux alentours de Jérusalem, au chapitre 11. Puis la foule l'accueille comme un roi en disant « Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » Mais la foule n'a aucune idée vraiment de qui il est. Ensuite, après avoir nettoyé le temple pour les nations, comme Dominique nous en a parlé la semaine passée, on voit que Jésus est encore incompris par les chefs religieux qui veulent maintenant le tuer. Au chapitre 11 et 12, ils essaient de lui tendre des pièges de toutes sortes de manières, de le prendre en faute avec des débats. Par tous les moyens possibles, ils veulent trouver une occasion de le condamner puis de l'accuser pour le tuer. Mais rien ne fonctionne. La foule ne comprend pas vraiment qui il est. Et les chefs religieux ne comprennent pas vraiment qui il est. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils voient que Jésus est le Fils de Dieu? Au chapitre 13, Jésus enseigne à ses disciples sur la fin des temps, avec toutes sortes d'indices dans l'enseignement que lui-même est d'origine divine. Mais les disciples ne semblent pas voir sa vraie identité. Tout ça nous amène au chapitre 14 de l'Évangile de Marc, où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples et il leur donne du pain à manger et il leur donne du vin à boire dans une coupe. Puis il compare ce pain et ce vin à son corps qui va être brisé bientôt et son sang qui sera versé. Mais les disciples ne comprennent pas ce que ça représente vraiment. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils le voient? Jésus se fait alors trahir par Judas, se fait abandonner de tous les disciples, se fait renier par l'apôtre Pierre et se fait juger dans un tribunal de chefs religieux. Dans ce même tribunal-là, c'est Jésus lui-même qui va déclarer pour la première fois qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est ça, on voit le texte ici dans Marc chapitre 14, versets 61 et 62. Au moment où Jésus est en train d'être jugé par le Sanhédrin, le tribunal de chefs religieux juifs, le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Il faisait référence à des textes de l'Ancien Testament de Daniel chapitre 7 où le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui vient pour juger les nations. Mais au lieu de le reconnaître, les chefs religieux l'accusent de blasphème et le font condamner à mort. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils le croient? Au chapitre 15, Jésus est envoyé chez le gouverneur Pilate pour qu'il envoie se faire crucifier, pour que Pilate le condamne, parce que ça prenait un gouverneur. Les chefs religieux ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, ils étaient sous la domination des Romains. Et ça devait être les Romains qui donnent la condamnation. Pilate le nomme roi des Juifs. La foule, elle, crie de plus belle cette fois-ci, « Crucifie-le, crucifie-le. » Les soldats romains battent Jésus de verge parce que Pilate, finalement, leur donne Jésus pour être crucifié et leur libère Barabbas. Ils le battent de verge, se moquent de lui en plaçant une couronne d'épines sur sa tête. Ils le frappent avec un roseau sur la tête, avec la couronne. Ils crachent sur lui, le frappent au visage. Mais aucun d'entre eux n'a compris qu'il était vraiment plus qu'un roi. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils le voient? On finit par crucifier Jésus sur une croix entre deux brigands. On va planter des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et je pense que ça vaut la peine de lire ce texte de l'Évangile de Marc au chapitre 15, versets 24 à 32. Et on ne va pas l'avoir à l'écran, c'est un long texte, mais je vais vous le lire. Si vous voulez tourner dans Marc chapitre 15, on va lire à partir du verset 24. On lit « Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils le crucifièrent avec lui deux brigands. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres avec des spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient, « Il a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Tous ceux autour de la croix, les passants, les chefs religieux, les brigands se moquent de lui et l'insultent comme un malfaiteur et un imposteur. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils comprennent qui il est vraiment? C'est finalement au milieu des ténèbres que Jésus prend son dernier souffle et meurt sur la croix en lançant un cri de désespoir envers Dieu. Lisons-le. Quand l'officier à Marc chapitre 15, verset 33, c'est pas à l'écran, c'est un long texte aussi. On lit à partir du verset 33. « À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc, voyons, si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est rare que je lis les récits de la passion de Jésus, tu sais, de la crucifixion, mais à chaque fois que je prends le temps de m'y exposer encore, je sais pas, je deviens comme émotionnel. Une des choses vraiment, vraiment intéressantes dans le récit qui est ici devant nous, c'est qu'est-ce qu'on voit au verset 38, au verset 39, pardon. C'est ici, dans le récit de Marc, qu'on rencontre la première personne à date qui comprend que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. On lit au verset 39, « Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Alors la question, c'est qu'est-ce que ça le prit pour que l'officier romain, un homme dur à cuire, habitué à la guerre, à la mort, ayant lui-même infligé la mort sans scrupule, à maintes reprises, un non-juif de la pire espèce aux yeux des Juifs, qu'est-ce que ça a pris pour que cet officier reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu? On ne connaît pas grand-chose sur la foi de cet officier. On sait juste qu'il a confessé de sa bouche que Jésus est assurément le Fils de Dieu. Et au verset 39, on lit que ça a pris qu'il voit de près la manière dont Jésus a expiré. La manière dont Jésus a tirer son dernier souffle. Il a vu que le Fils de Dieu, pour la première fois de son existence, a été séparé de son Père. Il a vu que le corps de Jésus a été brisé et que le sang de Jésus a été versé pour payer la dette, la rançon due à ses péchés, afin de le libérer de la condamnation et de la domination du péché sur lui. Peut-être qu'il ne pouvait pas utiliser tous ces mots-là pour l'expliquer. Peut-être qu'il ne savait même pas vraiment qu'est-ce qui se passait en lui. Qu'est-ce qui l'a amené à dire, à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il l'a fait. Tu sais, toutes ces personnes de l'histoire de l'Évangile qui n'ont jamais saisi que Jésus était le Fils de Dieu, c'est moi et toi, ces personnes-là. C'est moi et toi, quand on décide de poursuivre le péché dans notre cœur et l'idolâtrie au lieu de reconnaître notre besoin de Dieu et de sa grâce. C'est moi et toi quand on choisit de corriger nos enfants pour se donner la paix à nous-mêmes au lieu de le faire pour leur bien, dans l'amour et la patience. C'est moi et toi quand on décide de cultiver l'amertume dans notre cœur en faisant la loi du silence à notre conjoint qui nous a irrités ou blessés au lieu de chercher la réconciliation et poursuivre le pardon envers lui. C'est moi et toi qui ne reconnaissons pas que Jésus est le Fils de Dieu quand on parle dans le dos de notre boss ou d'un collègue de travail au lieu de lui dire la vérité avec amour. C'est moi et toi quand on choisit de fuir la douleur de nos souffrances par la consommation de substances, de sexe, de porno, de jeux compulsifs ou toute autre chose qu'on pourrait essayer d'utiliser pour enlever la douleur que l'on ressent. La question qui me reste est la suivante. Qu'est-ce que ça va te prendre, toi, pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu venu sur la terre, pour accomplir l'opération de ton sauvetage et qu'il mérite que tu places toute ta confiance en lui au lieu de te faire confiance à toi-même? Ça ne prendra pas plus d'efforts de ta part. Ça ne prendra pas plus de religion. Ça ne prendra pas plus de service à l'Église ou de présence à l'Église les dimanches matins. Ça ne prendra pas plus de faire toutes les bonnes choses que tu peux faire en espérant d'obtenir sa faveur. Ça ne prendra pas non plus plus d'efforts humains à éviter le péché dans ta vie. La seule chose que ça va prendre est la même chose que ça le prit pour l'officier romain. Un nouveau regard rempli de foi en direction de la croix de Jésus. De voir de près, à nouveau, comment Jésus a rendu son dernier souffle et de choisir de placer en lui seul ta confiance. Par contre, il ne faut pas oublier que l'histoire que Marc raconte ne se termine pas avec la mort de Jésus. Il y a un autre chapitre après le chapitre 15. Et c'est intéressant que dans le chapitre 16, on voit que l'histoire se termine avec un tombeau vide. Si Jésus était resté au tombeau, quelle sorte de foi est-ce qu'on pourrait avoir en regardant vers la croix? Une foi dans un sauveur qui a essayé d'opérer notre sauvetage, mais qui a raté son coup? Hein? Si Jésus n'est pas ressuscité puis est encore dans le tombeau, c'est pas une foi, ça. C'est pas une foi dans rien d'extraordinaire. Ça vaut rien si Jésus n'est pas ressuscité. Mais tu vois, Marc 16 nous dit que les femmes qui sont allées au tombeau n'ont pas trouvé Jésus dans le tombeau. Ils ont trouvé un tombeau vide. On lit au verset 4 de chapitre 16. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. C'est intéressant de se rendre compte quand on étudie l'évangile de Marc puis l'histoire aussi de la transmission de cet évangile dans l'histoire, comment l'évangile de Marc, comme d'autres textes du Nouveau Testament, se sont transmis dans l'histoire. Vous savez, Marc a écrit cet évangile-là, on croit, il a pris des informations de l'apôtre Pierre, on pense, et il a mis ça par écrit dans un parchemin, probablement dans un rouleau fait d'un papier, là, d'un papyrus, exemple. Et ça a été copié et retransmis et recopié et retransmis. Et aujourd'hui, il nous reste des copies de ces manuscrits-là. Et c'est intéressant là, de se rendre compte que les plus anciennes copies de manuscrits de l'histoire de l'Évangile de Marc se terminent au verset 8 du chapitre 16. Il n'y a pas rien après le verset 8. Dans les plus anciennes, dans les plus anciens manuscrits de l'Évangile de Marc, on n'a pas les versets 9 à 20. C'est comme si l'Évangile se termine au verset 8, d'une manière un peu abrupte et inattendue. Tu vois, il y en a qui aiment les histoires qui finissent bien, il y en a qui aiment les histoires qui finissent mal, puis il y en a qui aiment les histoires où la fin est un peu comme un cliffhanger en anglais, je ne sais pas comment dire, c'est un peu comme ça nous laisse sur notre appétit, c'est un suspens, j'entends quelqu'un le dire, merci de me souffler la réponse. Si on suppose que le verset 8 est le dernier verset, parce que c'est quand même quelque chose de débattu, mais on a beaucoup d'éléments qui nous montrent que c'est probablement ça, c'est le verset 8, c'est vraiment originalement le dernier verset de l'Évangile. On pense que certains copistes, certains scribes qui auraient copié les manuscrits, qui auraient voulu trouver que l'histoire ne finit pas assez bien, comparé aux autres évangiles, peut-être même, auraient voulu ajouter une fin d'histoire un peu plus belle et résolue, qui nous raconte un petit peu la suite comme un épilogue de l'histoire de l'Évangile. Mais on pense vraiment qu'originalement, ça l'arrêtait au verset 8. Et si c'est vrai, si ça s'avère vrai, on ne pourra probablement jamais être capable de le prouver, mais c'est un peu comme si la fin de l'histoire restait à être écrite par toi et par moi. Est-ce que je vais croire que la résurrection est vraiment arrivée et qu'elle confirme que Jésus n'était pas seulement un imposteur ou un détraqué, mais qu'il est et restera toujours le Fils de Dieu? Est-ce que je suis prête à répondre à cette invitation-là de croire à la divinité de Jésus? C'est ça l'invitation qu'on a ce matin avec le repas du Seigneur, qu'on veut prendre ensemble. C'est une invitation à jeter un nouveau regard sur la croix sanglante de Jésus et sur le tombeau vide, en reconnaissant que le Fils unique de Dieu, dans sa grâce incroyable, a pris sur lui la colère qui m'était et qui t'était destinée à toi aussi, qui nous était tous destinés, afin que nos péchés soient complètement effacés et que nos cœurs soient totalement libérés par sa grâce. Ça, c'est l'invitation. C'est l'invitation de regarder de plus près encore comment Jésus a tiré son dernier souffle et d'aller un peu plus loin et de voir maintenant cette déclaration faite par l'ange que Jésus n'est pas resté mort, mais qu'il est encore vivant, même aujourd'hui. Et alors qu'on se prépare pour le repas du Seigneur, j'aimerais inviter les gens qui sont responsables pour distribuer les éléments à s'avancer, et aussi l'équipe de musiciens, de venir pour ce temps qu'on veut prendre ensemble. J'aimerais qu'on lise justement une autre section de l'Évangile de Marc, dans le chapitre 14, où justement Jésus, pendant la fête de la Pâque, va inaugurer le repas du Seigneur. Au chapitre 14, verset 22, on lit l'histoire suivante. « Pendant qu'il mangeait, Jésus est donc à la table avec ses apôtres, ses 12 apôtres, incluant Judas, celui qui était pour le trahir. Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Peut-être qu'on peut juste attendre avant de distribuer, on peut distribuer pendant le chant qu'on va chanter, juste maintenant. Juste comme ça, il y aura moins de distractions. Merci, désolé de ne pas avoir été clair. Il rompit le pain en leur donnant en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Tu vois, quand on lit ce texte dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, où Jésus inaugure le repas du Seigneur, on comprend que ce repas est donné pour les disciples de Jésus, pour qu'ils se souviennent de lui, de qui il est et de ce qu'il a fait. C'est donné pour ceux qui ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu et qui ont placé leur confiance en lui. Et à l'Église de Sentier, ici, on invite tous ceux à prendre le repas, tous ceux qui ont démontré publiquement par le baptême, par immersion, leur décision de suivre Jésus comme un disciple. Avec Jésus, avec eux, Jésus établit un contrat, une alliance. C'est le sens d'un contrat. Avec ceux qui placent leur confiance en Jésus, avec ceux qui choisissent de suivre Jésus comme disciple, Jésus établit un contrat comme une alliance nouvelle dans laquelle Jésus s'engage à payer pour tous leurs péchés et leur donner sa propre vie. De leur côté, les disciples, dans ce contrat, Jésus désire qu'ils répondent à son amour et sa grâce et qu'ils s'engagent eux aussi envers Jésus, à lui donner tout ce qu'ils sont et à se donner les uns aux autres. C'est le sens du repas du Seigneur qu'on va prendre ce matin. C'est cet engagement-là que Jésus prend envers nous, qui a été complété. C'est cette opération de sauvetage accomplie par Jésus alors qu'il crie à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a été abandonné pour que moi et toi puissions être adoptés et jamais abandonnés par Dieu. Donc, on va chanter un chant très à propos, un chant qui s'appelle « Alléluia » et j'aimerais qu'on puisse méditer sur cela pendant le chant alors qu'on va distribuer les éléments et je vais revenir juste pour un court temps, juste après.